Oui, bonjour. Donc, comme Jean-François Collin m'a proposé, je vais réagir à ce qui a été dit ce matin. Sur les campagnes, nous ne faisons pas que des campagnes de prévention médiatique sur la nutrition. C'est justement un des sujets où nous avons le plus investi sur différentes approches, en particulier sur les populations défavorisées, puisque nous avons un programme de formation des intervenants en banque alimentaire au niveau local. Nous avons un classeur à tout prix qui est justement fait pour aider, à aider les formations pour des personnes qui auraient des difficultés financières. Nous avons également soutenu dans le cadre du PNNS, le dernier PNNS, le fait qu'il y ait des tickets fruits et légumes. C'est malheureusement quelque chose qui n'est pas arrivé. Il y avait une expérience en Seine-Saint-Denis que nous avons relatée dans la santé de l'homme. Donc vraiment, c'est un sujet nutrition où on a vraiment conscience qu'il y a des inégalités et que nos campagnes ne sont pas la seule chose à faire. Donc, moi, on m'a demandé de traiter marketing social, et le plan de ma présentation est en plusieurs parties. D'abord, quelques étapes de notre implication progressive et récente vers le marketing social. Ensuite, quelques réflexions critiques sur le marketing social. Ensuite, au lieu de, comme François m'avait demandé de traiter un peu à fond le marketing social, au lieu de le traiter de façon académique, j'ai choisi de vous présenter une campagne du CDC qui s'appelle Verbe, qui est, je crois, exemplaire par l'investissement à la fois théorique et financier dans ce type de campagne. Et en conclusion, et donner quelques perspectives de recherche qui sont en cours de préparation. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, et je pense en ce qui concerne beaucoup de personnes, le marketing social, la première réaction, c'est extrêmement la méfiance. C'est vraiment la première chose. Quand on ne connaît pas le sujet, on est extrêmement méfiant. Suivante. En particulier quand on sait que le Health Education Authority, qui est en gros l'INPES ou le CFES britannique, a été fermé et qui a été ouvert le National Social Marketing Center. Ensuite, l'autre étape, ça a été l'apparition de Combi de l'OMS, dont je vous parlerai. Et pour finir, il y a aussi le hasard des rencontres avec des universitaires. Diapositive suivante. D'abord, le National Social Marketing Center, créé en 2006, après la fermeture de l'équivalent de l'INPES, qui était devenu en 2000 l'HDA, puis a été inclus à l'ENICE, en gros, c'est une sorte de gros HAS, en 2005. Donc ça, pour nous, comme c'était nos copains qui étaient au HEA et qui nous ont dit, vraiment, c'est un virage maléfique, ça nous est tous resté en mémoire de ce virage qui s'est fait. Ensuite, le summum de la méfiance s'est fait quand on a été associé au projet Détermine, qui est un projet sur les inégalités sociales de santé, projet financé par la Commission européenne, DG Sanko, de 2007 à 2010. Et justement, ce National Center de marketing social était pilote du Work Package sur les actions innovantes. Donc, comment ce centre-là pourrait-on prétendre réduire les inégalités de santé à part du marketing? Là, c'était pour moi, en tout cas, le summum de la méfiance. Et j'ai pu participer à certains des travaux et j'étais assez rassuré par les valeurs des professionnels avec qui j'ai pu parler, comme Alex, comme Adam. Donc, quelque part, la part humaine m'a fait un peu baisser cette énorme méfiance que j'avais au départ. Diapositive suivante. Ensuite, il y a le projet Combi. Le projet Combi, c'est un projet qui veut dire communication pour avoir un impact comportemental. C'est, on va dire, à mon avis, c'est des rencontres entre un universitaire de New York, Everall Design, que certaines personnes connaissent dans la salle, qui avait un cours à l'Université de New York, et des gens de la santé publique et de l'OMS qui voyaient le problème de la dengue se développer sans pouvoir agir. Donc, et cette initiative, donc, est la c'est pas l'OMS centre, c'est l'OMS suivant, c'est l'OMS panaméricaine. Alors pourquoi sur la dengue? Donc je vais pas rester longtemps là-dessus. C'est simple, la partie importante, c'est qu'en fait il y a une extension rapide des territoires où circulent les virus de la dengue et les moustiques vecteurs, et en particulier avec l'urbanisation et souvent de l'urbanisation des conditions sociales défavorisées qui favorisent l'existence de réservoirs d'eau à l'état libre, à l'air libre, qui sont des réservoirs larvaires. Donc la nécessité absolue d'éliminer les réservoirs d'eau dans son jardin, son environnement. diapositive suivante. Et donc, le constat de l'OMS et de cet universitaire, c'est que un changement de connaissance, d'attitude, de représentation, comme souvent on essaye de le faire par la prévention, sans changement de comportement, ne servira à rien pour réduire l'endémie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce guide? Donc, c'est là, quand on commence à rentrer dans ce guide de l'OMS, bon, la première chose qui est faite, c'est le constat d'échec des approches précédentes, qui pourtant avaient été faites dans la meilleure volonté. Premier constat qui va étonner personne ici, la connaissance n'est pas suffisante. Ça, c'est une chose qu'on répète assez souvent. Mais c'est pas en continuant à bombarder d'informations épidémiologiques et sur les moustiques, même avec des outils sophistiqués, même avec des jolis t-shirts, des jolies couleurs, qu'on y arrive davantage. Et la conclusion, c'est de dire qu'il est quand même nécessaire de fonder l'intervention sur le changement de comportement souhaité, sinon on va à l'échec. La deuxième chose qui est assez rassurante, vous voyez dans le titre, on parle quand même de mobilisation sociale, et on a parlé d'environnement ce matin, il est parfois nécessaire, il ne faut pas forcément demander aux individus de changer seul, tout seul, isolé, il est souvent nécessaire de changer l'environnement pour aider l'individu à changer son comportement. Toute la tâche ensuite, c'est de savoir comment on change cet environnement, et ça a déjà été évoqué ce matin. Alors ça, c'est le combi précédent, c'était le document panaméricain. Là, c'est le rapport de la dingue pour le monde, OMS Monde. Et donc là, on voit, donc j'ai découvert ce programme de recherche sur les maladies liées à la pauvreté, TDR, donc c'est intégré. Une sorte de fonds entre agences internationales, UNICEF, PNUD, Banque mondiale, OMS, qui cherchent à travailler sur les maladies liées à la pauvreté. Diapositive suivante. Donc nous, INPES, on s'est intéressé à ce projet. On a eu plusieurs personnes formées. On a eu un séminaire en Guadeloupe en 1997. Et nous avons la chance d'avoir Stéphanie Durand dans la salle, qui est présente là sur C'est un hasard d'ailleurs. Donc on a fait cette formation, on a également tenté une expérience autour de la pandémie grippale à Saint-Dié-des-Vosges. Donc voilà, on s'est formé et on a essayé de diffuser dans des endroits pour tester un peu cette méthode. Diapositive suivante. Ensuite, il y a eu les rencontres avec les universitaires, donc en particulier Karine Gallopel-Morvan, qui est à l'université de Rennes, que je crois plusieurs d'entre vous connaissent. Donc elle est vraiment professeure de marketing social. Elle a voulu faire un livre chez Duno sur le marketing social. Duno lui a dit, c'est pas la peine, c'est inconnu, ça ne passera pas en France. Donc on lui a imposé un autre titre. Une autre rencontre que j'ai faite avec le professeur Gérard Hastings, qui est un professeur écossais, lui qui est, on va dire, il y a plus d'ancienneté. Et il a fait un ouvrage qui va peut-être être traduit un jour, dont le sous-titre est « Pourquoi le diable aurait-il tous les meilleurs airs de musique ?» qui fait référence au fait que, il y a environ un siècle, les gens qui faisaient de la musique dans les églises avaient des musiques ennuyantes. Et donc, à un moment, ils ont été chercher les musiques dans les pubs, chercher les musiques dans les cabarets, pour les utiliser dans les églises, pour ramener les gens vers les églises. C'est ça le sens de ce sous-titre. Donc, Gérard Hastings et Karine Gallopel sont venus nous présenter le 22 octobre, vous voyez, c'est très récent, leur vision à l'INPES, rencontre internationale organisée par Jennifer Davis. Et j'emprunte à Gérard Hastings la première diapo qu'il nous montre, donc un quiz. Il demande à la salle, je vais faire pareil, qui a écrit la phrase suivante. « Nous avons lâché la laisse d'un monstre que personne ne peut contrôler, même la minorité qui en profite. » L'intérêt individuel éhonté est un vice, pas une vertu. Nous devons reconnaître que l'utilité d'une activité n'est pas nécessairement mesurée par le profit qu'elle génère et que ce que quelqu'un gagne n'est pas un signe de ses talents et de ses compétences, encore moins de sa moralité. Et alors, quelqu'un a-t-il une idée de qui a écrit ça? Stiglitz? Soros? Oui, toi, tu vas tricher. Continuez. Alors, c'est ni Karl Marx, ni Fidel Castro, ni Naomi Klein, ni Stiglitz, ni Soros, mais un prof de marketing. Pas de marketing social, un prof de marketing. Suivante, donc il y a la petite photo là, voilà. Donc, ce que Gérard Hastings nous dit, c'est que, en fait, dans le DNA de la science du marketing, pas l'usage qu'on en fait, mais dans le DNA de ses pères fondateurs, ce regard critique sur la société de consommation existait déjà. Il nous dit également qu'il n'y a pas eu un moment encore plus important pour avoir ce regard critique sur le marketing que la crise financière mondiale. Il nous dit également que la connaissance du marketing et son pouvoir permet d'utiliser à de meilleures fins, c'est un petit peu l'idée du marketing social, et il dit qu'il y a beaucoup à apprendre de toute l'inventivité qui est faite par l'industrie, comment gagner les cœurs et les esprits, win heart and minds, comment utiliser les marques, en gros, et aussi, quand on a compris ça, parfois il faut arriver à réglementer ce marketing, et si on ne connaît pas bien le mécanisme, on n'a peut-être pas conscience qu'il faut faire ça. Et je voulais donner un exemple. Alors, nous, on essaie à l'INPES de populariser les principes de Sydney. Donc les principes de Sydney, c'est de dire, en ce qui concerne le marketing en direction des enfants, il n'y a pas d'autre solution que d'arriver progressivement à l'interdire. Être en cohérence avec les textes sur les droits de l'enfant, leur offrir un haut niveau de protection, prendre une définition large de la publicité, comme on l'a vu, qui passe par Internet, qui passe par l'international. Enfin, il faut vraiment être extrêmement, extrêmement attentif. Les pays qui ont fait ça, la Suède par exemple, qui a fait ça, voit arriver la publicité par MTV, Écosse, etc. Donc en fait, c'est extrêmement compliqué, il faut être extrêmement attentif. Et voilà, donc nous on défend ces principes de Sydney qui sont à mon avis pas assez connus en France et qui sont portés par un groupe d'experts internationaux sur la nutrition. Diapositive suivante, donc peut-être juste une définition. Là c'est une diapositive que j'ai empruntée à Karine Gallopel-Morvan. Elle est toute simple. Le marketing social est l'application des principes, des outils et des techniques du marketing pour créer, communiquer, générer des valeurs dans le but d'influencer les comportements de certaines populations pour le bien de la société, dans le domaine de la santé publique ou le domaine de l'environnement. Alors, maintenant, à titre d'exemple d'une campagne qui est vraiment faite sur le marketing social depuis le départ, qui a été fondée là-dessus, d'ailleurs en essayant de faire le mariage entre c'est le CDC qui a fait ça, donc ils ont essayé, ils ont pris les meilleurs experts scientifiques du CDC, ils ont essayé de travailler avec les meilleurs experts du marketing social, ils sont aperçus des différences de culture, mais ils ont réussi à travailler ensemble. Alors, la campagne verbe, ça veut dire, c'est le verbe d'action, c'est une campagne pour favoriser l'activité physique. C'est dans le sens verbe d'action. On va continuer. Voilà. Donc pourquoi cette campagne? Cette campagne, c'était lié à l'augmentation de l'obésité aux États-Unis. Donc là, on était dans les années 2000. Donc on était ici où les trois courbes augmentaient, étaient toujours en train d'augmenter. L'origine de la demande, c'est le Congrès américain qui en 2001 a dit il faut que ça s'arrête et a donné 125 millions de dollars au CDC. Donc CDC prévention, c'est INVS plus INPS multiplié par 1000 à peu près. Et la campagne a disposé de 339 millions de dollars, c'est-à-dire trois années budgétaires de l'INPES, voilà, de 2002 à 2006. Et il était écrit dans les missions qu'on demandait au CDC de faire une campagne qui aiderait les enfants à adapter des comportements de santé tôt pour qu'ils aient une vie entière en bonne santé, et surtout qu'il fallait que ça utilise les méthodes employées par les meilleurs gens du marketing en direction des enfants. Et finalement, c'est la première campagne de marketing social du CDC. Alors, ce qui est impressionnant, et tous les documents sont en ligne et accessibles facilement, ça a été précédé par une revue de littérature, précédé par une étude exploratoire qualitative considérable, à la fois auprès de jeunes, auprès d'adultes, auprès de leaders, auprès de professionnels d'industrie ou de responsables associatifs. Il y a eu des phases d'analyse des meilleures publicités et des meilleures marques destinées aux jeunes, je veux dire, avec des analyses sémiologiques. J'ai découvert les analyses hédoniques, comment est-ce qu'une marque vous donne de plaisir, comment est-ce qu'on peut analyser ça. Ensuite, après tout ce travail, il y a eu un pré-test de la marque, encore beaucoup d'études, et ensuite un pré-test de la campagne, donc un investissement considérable pour vraiment être adapté à la... Donc, par exemple, c'est une des choses qui sortent. Donc, dans l'idée du marketing social, c'est qu'il faut aller au plus proche des préoccupations des gens et essayer de comprendre ce qui, les freins et les obstacles ou ce qui favorise, donc par exemple sur les motivations, donc on s'aperçoit que l'activité physique en soi-même n'est pas le sujet pour les jeunes. L'activité physique, c'est d'être avec les autres, c'est de faire des choses nouvelles, et les barrières, ben voilà, les barrières sont là. Donc il y a une analyse fine, c'est juste quelques exemples pour montrer à quel point il y a eu un effort de comprendre tout ce qui pouvait motiver ou ne pas motiver les jeunes. Donc sur le marketing social, il y a les fameux 4 P du marketing, on les retrouve là, mais c'est pas utilisé de la même manière. Donc par exemple, Wang dans son papier disait, nous avons positionné entre guillemets le produit et nous avons vendu le plaisir et non pas la douleur. Alors, quelles sont les recommandations issues de l'étude exploratoire? Donc là, on était dans l'activité physique, mais finalement, l'objectif était que les jeunes entreprennent des activités qui feront qu'ils se sentent bien. Amélioration d'estime de soi, amélioration d'image de soi. Les aider à découvrir leur passion. Et il a été dit également que la tonalité du message était beaucoup plus importante que le contenu, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît assez souvent. Alors, et sinon aussi, ce qui s'est passé pendant l'étude exploratoire, comme ils ont interrogé des professionnels, à la fois du privé, ils leur ont dit, ben nous, on fait 300 focus group par an pour pas perdre le contact avec les jeunes, avec leur culture qui évolue sans arrêt. Donc ils recommandaient au CDC, si vous voulez vraiment ne pas perdre les jeunes, vous êtes obligés de faire l'effort d'aller vers eux et de comprendre ce qui se passe. Et en plaisantant, nous, au milieu d'un immeuble de New York, au milieu d'une tour, c'est pas de là qu'on va savoir ce qui se passe dans les écoles, etc. Et le conseil qui a été fait à partir des fédérations et des associations de type NGO, ils leur ont dit, si vous voulez développer des partenariats locaux, vous êtes obligé d'investir, avoir des gens, vous pouvez pas attendre qu'ils fassent tout eux-mêmes, il faut absolument rester avec eux, avoir du personnel pour faire ce lien. Et là, nous, on est vraiment souvent en difficulté parce qu'il nous manque. On est très content d'avoir des partenaires, mais on n'a pas les gens pour maintenir ce lien avec ces partenaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette... Donc la partie média, il y a eu la création d'une marque. Donc verbe, comme je vous disais, verbe, c'est verbe d'action, c'est le verbe, l'action que moi je fais. Bon, je vais passer juste de plus en plus rapidement pour vous montrer le niveau d'exposition publicitaire. Là, on est à 30 000 GRP. Nous, une campagne banale, c'est 500 GRP. Donc on est dans des niveaux d'exposition qui sont... GRP, c'est la puissance publicitaire. La pression publicitaire. On va passer à la suivante. On passe à la suivante. Donc ça, c'était pour les parents. C'était les enfants actifs sont mieux équilibrés. Donc on essayait d'aider les compétences sociales des enfants et leur confiance. Suivante, aider vos enfants à rester actifs 7 jours par semaine. Suivante, celle que je préfère, c'est gonfler la confiance, enfin l'estime de soi de vos enfants. Suivante, bon, il y avait des documents pour, là je montre qu'un exemple, hein, ça c'est pour les organisations, il y avait pour les écoles, il y avait une série de documents pour le terrain. Suivante, ça c'était un document qui aide une ville à développer quelque chose, Pour le milieu scolaire, il y a eu également des kits pour les écoles. Il y avait des villes pilotes où il y a eu un effort supplémentaire de fait, avec des camions qui venaient sur place pour organiser des activités locales. Et d'ailleurs, on a montré que les villes qui avaient plus investi avaient plus de reconnaissance et plus d'activités physiques. Il y avait un site interactif. Il y a eu 1 million d'enfants inscrits. On va passer à la suivante. Il y a eu des partenariats à la fois avec des compagnies privées et à la fois avec des villes et à la fois avec les scouts. Et donc on arrive au résultat. Donc il y a eu, j'ai repéré environ une vingtaine d'articles, il y a un numéro spécial à l'American Journal of Preventive Medicine qui est en ligne, que vous pouvez trouver, et l'article le plus récent de 2010 de Human. Suivante. Donc je vais passer les questions évaluatives pour gagner du temps. Donc l'évaluation a été faite par des cohortes, donc on a suivi des jeunes, il y a eu 3 cohortes pour avoir toujours des 9-12 ans qui ont été interrogés tous les ans. On passe à la suivante. Donc, plusieurs séries de questions, la mémorisation spontanée reconnaissance, c'est la même chose que nos post-tests, et bien sûr, des questions sur l'activité physique et des questions sur les perceptions, on va passer aussi. Donc là, on voit que plus les années passent, plus la campagne est reconnue et plus la campagne est mémorisée. Et sur les résultats, donc on a réussi à trouver que les trois premières lignes, ce sont les échelles de croyance dans les bénéfices, les échelles de sentiment d'efficacité personnelle et l'échelle de soutien social perçu pour faire de l'activité physique. Et on voit que, bon, c'est des petites augmentations, mais il y a une augmentation qui est corrélée à l'exposition. Et donc sur l'activité physique, sur les trois variables, l'activité physique est corrélée significativement avec l'exposition. Donc on va et l'étude a été faite également pour voir qu'est-ce qui restait de ça quand les gamins étaient devenus adolescents, et donc on a également une persistance de l'effet de l'exposition à l'activité physique après. Donc les conclusions pour nous, donc en fait, nous, globalement, si on s'intéresse de plus en plus au marketing social, c'est que finalement, on est obligé d'admettre que c'est ce qu'on fait, même si on ne veut pas se l'avouer. Peut-être qu'on fera mieux ce travail en s'appliquant explicitement sur cette discipline. Sinon, en termes pratiques, on pense que c'est un potentiel, c'est très égoïste, c'est intra-institutionnel. C'est un grand potentiel unificateur des trois métiers de l'INPES qui parfois travaillent un peu séparément études, communication et liens au réseau, qui souvent ne travaillent pas ensemble. Et je voudrais aussi partager avec vous une découverte que j'ai faite, donc vers une science du changement de comportement. Donc en 2009, l'ensemble des NIH, hein, c'est toutes les agences, se sont réunis le 15 et le 16 juin 2009, et il y avait Thomas Valente dans la salle, qui est récemment professeur à la chaire avec Eric. Et en fait, on voit bien que la recherche s'amplifie, se gonfle. C'est-à-dire, en gros, ils ont commencé à établir cette hiérarchie. Ils demandent une approche multiniveau qui soit intégrée au changement de comportement. C'est essayer de voir dans quel contexte ça se place. Aussi, quelque chose que j'ai souvent entendu, c'est que il ne faut plus travailler sur un comportement, mais des clusters de comportements, et donc avoir une action sur plusieurs comportements, et surtout avoir une extrême attention sur le contexte environnemental de ce changement de comportement. Je vous invite à aller lire ça, c'est passionnant, c'est l'état de la recherche, à l'américaine bien sûr, mais qui donne des idées de vers où ça évolue. Je vous remercie.